Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless, pour vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Au programme Le Journal, les sports, on fera aussi le point sur l'actualité économique en Australie. Elle est plutôt bonne, il paraît que les Australiens sont les plus riches du monde. On vous parlera aussi de Joséphine de Beauharnais et de sa passion pour les animaux australiens. Et enfin, on va vous donner quelques conseils pour aider votre bébé à mieux dormir. Mais pour l'instant, restez réveillés, c'est le début de notre émission. La Nouvelle-Galles du Sud bataille pour contenir ce nouveau foyer épidémique du coronavirus. 11 nouveaux cas du variant Delta ont été détectés aujourd'hui. Pour l'instant, le confinement n'a pas été décrété. Le GIEC, le groupe intergouvernemental de l'évolution du climat, nous prédit un avenir particulièrement sombre si des actions drastiques ne sont pas prises immédiatement pour contenir le réchauffement climatique. Et à un mois seulement des Jeux Olympiques de Tokyo, les organisateurs viennent d'annoncer une nouvelle série de règles sanitaires qui sont particulièrement strictes. Et au lendemain du retour du port obligatoire du masque dans les lieux clos à Sydney, ainsi que de toute une autre série de restrictions, les autorités sanitaires annoncent aujourd'hui 11 nouveaux cas porteurs du variant Delta, ce variant particulièrement contagieux, qui sont tous liés au cluster de Bondi. Gladys Bérégé-Client, qui s'est exprimée il y a quelques minutes seulement, a estimé que la période actuelle était la plus effrayante qu'avait traversée la Nouvelle-Galles du Sud depuis le début de la pandémie, et ce, en raison justement de la très forte contagiosité du variant Delta. Plus tôt dans la matinée, c'est le docteur Nathalie Cliss de New South Wales Health qui a pour sa part annoncé que des fragments de COVID-19 avaient été détectés dans le réseau d'égouts.
New South Wales Health's ongoing sewage surveillance program has recently been notified of detections from the Castle Hill Glenhaven, Rouse Hill, Cronulla and Bulambi sewage networks. New South Wales Health is aware of recently confirmed COVID-19 cases who are in isolation in these catchments.
Alors donc, on est sur Sydney, ce cluster de Bondi autour d'une cinquantaine de cas recensés à travers la ville. La perspective d'un confinement semble plus proche que jamais, même si pour l'instant, il n'est pas à l'ordre du jour. Par ailleurs, la plupart des autres États australiens ont de leur côté annoncé qu'ils fermaient leurs frontières aux personnes venant de Sydney et de Wollongong. Scott Morrison, pour sa part, a indiqué que la situation le préoccupait, mais il a également tenu à saluer la gestion de cette nouvelle crise par les autorités locales. Écoutez-le, c'était sur la chaîne Nine.
Well, obviously concerned, but also very confident of the ability of the New South Wales government, which they've demonstrated time and again in dealing with these situations. And I commend Premier Berejiklian for resisting going into a full lockdown. Australia has got not one person in ICU today because of COVID. And the virus is insidious and it will find those points of weakness. But I know the New South Wales government will continue to double down on their processes.
Plus au nord, dans le Queensland, 3 nouveaux cas de COVID-19 détectés au cours des 24 dernières heures. Mais ces cas sont porteurs du variant Alpha, beaucoup moins contagieux que le variant Delta qui circule actuellement à Sydney. Et c'est pourquoi le médecin-chef de l'État, Janet Young, se dit beaucoup moins inquiète par l'émergence de ces nouveaux cas que par le cluster qui n'est toujours pas maîtrisé à Sydney.
So I'm not concerned that any of these 3 cases are a risk to the Queensland community, and I'm not concerned with that outbreak in that we now do have everyone in quarantine that we believe was at risk. Now we have to remember that was the Alpha variant, so far less infectious than this new variant that we're seeing circulating in Sydney, the Delta variant, and we have to be so alert.
Tout juste revenu au gouvernement, Barnaby Joyce sème déjà la zizanie, alors que la famille Murugappan, qui était détenue depuis 2 ans sur Christmas Island, vient de se voir accorder, sous la pression du public, un bridging visa de 3 mois permettant à cette famille, qui est composée notamment de 2 enfants, de rester dans la ville de Perth. Le nouveau vice-premier ministre a estimé que le gouvernement aurait fait preuve de plus de magnanimité à l'égard de cette famille, qui est d'origine tamoule, si elle portait un autre nom de famille. Des allégations fermement démenties par le ministre de l'Immigration, Alex Hawke.
You know, I have had a lot to do with the Sri Lankan community, whether it's Sinhalese or Tamil, doesn't weigh on my mind in any way, shape or form, what their names are or what ethnicity they are or what country they've come from. It's about whether we owe them protection and whether they fit into our legal migration framework and whether they are indeed owed protection by Australia or not.
Pourra-t-on encore boire de l'eau fraîche et manger à notre faim dans 30 ans? Eh bien, ça n'est pas du tout sûr d'après le GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui dans sa dernière analyse prévisionnelle, qui a été dévoilée hier soir, prédit une augmentation significative des catastrophes climatiques, mais aussi humaines, notamment des famines et la malnutrition qui pourraient toucher des millions de personnes à travers le monde. À moins, bien sûr, que des actions drastiques soient prises immédiatement pour enrayer le dérèglement du climat. On écoute les explications de Lucie Bouteloup pour RFI.
Au total, près de 80 millions de personnes supplémentaires pourraient être menacées par la faim d'ici 2050. Un chiffre qui fait froid dans le dos et qui s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, la multiplication des mauvaises récoltes, avec au cœur du problème la pénurie d'eau récurrente dans les cultures. Une catastrophe agricole qui pourrait mettre en péril la riziculture dans 40% des régions productrices. Autre problème, la multiplication des événements météorologiques extrêmes qui menacent à la fois les récoltes mais aussi la qualité nutritive des aliments, avec notamment la baisse de leur apport protéinique. À ces fléaux devrait également s'ajouter la pression sur les terres. Bref, autant de facteurs qui pousseront inexorablement vers une flambée des prix d'environ 30% d'ici 2050, menaçant ainsi de malnutrition chronique plus de 180 millions de personnes principalement réparties en Afrique et en Asie du Sud-Est. Des prédictions d'autant plus alarmantes que les régions du monde où les productions agricoles seront le plus affectées par le climat sont aussi celles où les populations souffrent déjà de forts taux de malnutrition.
Un clou de plus dans le cercueil de la démocratie hongkongaise après l'annonce hier de la fermeture de l'Apple Daily, le principal quotidien pro-démocratie de cet ancien territoire britannique. Le dernier numéro de ce journal va paraître aujourd'hui, alors que depuis la semaine dernière, plusieurs figures de ce quotidien ont été arrêtées par le gouvernement local, gouvernement lui-même sous la coupe de Pékin. Et ces arrestations ont été faites au nom de la loi sur la sécurité nationale, loi dont l'adoption en 2019 avait justement déclenché d'importantes manifestations pro-démocratie. Pour RFI, Christophe Paget.
À chaque nouvelle opération du pouvoir hongkongais contre Apple Daily, les médias rappelaient que le journal était une épine dans le pied de Pékin. Ce ne sera bientôt plus le cas. Le quotidien distribuera son ultime édition papier demain jeudi. L'édition en ligne, elle, ne sera plus mise à jour dès ce soir. La décision du conseil d'administration devait être annoncée vendredi, suite au gel la semaine dernière par les autorités des avoirs du journal, l'empêchant de payer ses employés. Elle intervient dès aujourd'hui, après l'arrestation ce matin de son principal éditorialiste, Li Ping, soupçonné de collusion avec des pays étrangers. C'est la 7e personne liée à Apple Daily à être arrêtée depuis la mise en place l'an dernier par Pékin de la loi sur la sécurité nationale pour reprendre en main Hong Kong après les grandes manifestations pro-démocratie de 2019. Manifestation soutenue par le journal dont le fondateur Jimmy Lai avait ensuite été un des premiers à être arrêté en utilisant la nouvelle loi. Il risque la prison à vie. Apple Daily a remercié ce mercredi ses lecteurs, ses abonnés, ses annonceurs et les Hongkongais pour leur amour et leur soutien ces 26 dernières années. Vendredi, dans son éditorial, Li Ping avait estimé que le futur de la liberté de la presse à Hong Kong était dorénavant précaire.
Aux États-Unis, la chanteuse Britney Spears est au tribunal dans un procès qu'il oppose à son père, Jamie. Son père à qui elle reproche de l'avoir privée des droits les plus essentiels, et ce pendant plus d'une décennie. La chanteuse de 39 ans a fait savoir qu'elle souhaitait désormais avancer dans la vie et avoir un enfant. Dans un témoignage donné par visioconférence au tribunal, elle a indiqué que le contrôle exercé par son père sur sa vie l'avait profondément traumatisée, mais aussi fait sombrer dans la dépression.
I feel ganged up on, and I feel bullied, and I feel left out and alone. And I'm tired of feeling alone. I deserve to have the same rights as anybody does by having a child, a family.
Les Jeux Olympiques de Tokyo, c'est maintenant dans un mois. L'habituelle grande fête du sport aura malheureusement cette année, Covid oblige, une saveur un peu particulière. D'ailleurs, les organisateurs japonais viennent de dévoiler une nouvelle série de mesures sanitaires très strictes. On fait le point à Tokyo avec le correspondant de RFI, Frédéric Charles.
La gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, est hospitalisée. Elle souffrirait d'une grande fatigue. Elle doit prendre plusieurs jours de repos. Elle travaille souvent 7 jours sur 7, occupée à la réalisation des Jeux et à la lutte contre le coronavirus. Mais ses équipes et les organisateurs des Jeux ne chôment pas. Leur liste de règles anti-Covid s'allonge pour assurer une majorité de Japonais toujours hostiles à la tenue des Jeux. Les organisateurs ont refusé que les Jeux se déroulent à huis clos, contre l'avis de certains experts médicaux. Mais ce ne sera pas la fête pour les spectateurs. Toute personne enregistrant une température corporelle supérieure à 37,5 degrés lors de 2 contrôles distincts se verra refuser l'entrée dans un site de compétition. Il sera interdit de demander des autographes aux athlètes, de les acclamer, d'entrer en contact avec d'autres spectateurs. L'alcool est interdit alors qu'il est autorisé lors de matchs de baseball au Japon. L'ambiance festive est supprimée, ce seront les Jeux les plus silencieux de toute l'histoire olympique. Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Allez, maintenant, on jette un œil à la météo du jour en Australie. 17 degrés et des nuages à Perth, 15 degrés à Adélaïde, 16 degrés à Melbourne qui est balayé aujourd'hui par quelques averses, 21 degrés à Sydney où la grisaille domine, 21 degrés aussi à Brisbane et jusqu'à 30 degrés aujourd'hui à Darwin.
Journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le foot, l'Euro. 4 matchs hier. La France et le Portugal ont fait match nul, 2 buts partout. 2 buts de Karim Benzema pour les Bleus et 2 buts pour Cristiano Ronaldo. Un régal pour les spectateurs et la France affrontera la Suisse en 8e de finale. Team RFI était sur place, dont Antoine Grenier.
Et là, il s'offre un doublé ce soir, Karim Benzema. On a longtemps cru que cette rencontre ne serait qu'une affaire de pénalty. Pénalty concédé par Hugo Lloris pour une grosse faute sur Danilo Pereira à la 25e minute qui permet à Cristiano Ronaldo d'ouvrir la marque. Et puis un autre pénalty en faveur cette fois-ci de l'équipe de France pour une faute de Semedo sur Kylian Mbappé. Pénalty accordé après vérification vidéo. Et Benzema s'offre enfin ce 28e but en équipe de France qu'il attendait depuis bientôt 6 ans. Benzema à la manœuvre à nouveau au tout début de la seconde période qui inscrit d'un magnifique plat du pied croisé le 2e but des Bleus, 2-1. L'égalisation de Ronaldo pour une main de Koundé dans la surface, égalisation sur pénalty marquera l'histoire parce que c'est le 109e but du Portugais en sélection, record qu'il partage désormais avec l'Iranien Ali Day. De partout, Français. Les Français terminent premier de leur groupe F. Les Portugais sont qualifiés. La France ira, a priori, ira à Bucarest affronter la Suisse.
On écoute maintenant Karim Benzema, l'auteur du doublé. Il est sur TF1.
Un gros match contre une grande nation. On connaît l'équipe du Portugal avec beaucoup d'intensité. Donc voilà, il y a eu des buts, des occasions. On a essayé de produire du jeu, d'essayer de se procurer des occasions et on a réussi à mettre 2 buts. Il y a toute une pression autour de moi, ce qui est normal et comme je le dis à chaque fois, il faut jamais baisser les bras et toujours avoir un but dans la vie. Et voilà, c'est ce que je fais, ce que j'essaye en essayant de faire des mouvements et aujourd'hui ça m'a souri, ça fait plaisir et le plus important c'est qu'on s'est qualifié.
Et maintenant la réaction de Didier Deschamps, le sélectionneur, sur la performance des Bleus pour ce premier tour de l'Euro.
Gagner ce premier match contre l'Allemagne a été très très important pour nous. D'avoir pris malgré tout ce point dans un contexte si particulier pour différentes raisons contre la Hongrie, c'était aussi nous a offert avant de jouer ce match, la qualification. Mais comme je l'ai dit aux joueurs, il n'y avait pas de calcul à faire, si ce n'est à la fin, puisque l'Allemagne a fini plus tôt. Donc, de ne pas prendre de risque, puisque le match nul nous suffisait, et suffisait aux Portugais malgré tout pour être qualifiés. Donc, on a eu trois matchs différents, mais voilà, c'est haute intensité. On n'a pas tout bien fait, mais l'état d'esprit est là. On peut encore améliorer des choses, bien évidemment. Là, on aura un jour de plus. Ça ne va pas faire de mal pour récupérer, puisqu'on joue dans 5 jours, lundi prochain, tout autre adversaire. Donc, satisfait, très satisfait d'être au rendez-vous encore une fois.
Et avant le match, les fans rendaient hommage à N'Golo Kanté et à Kylian Mbappé. Écoutez.
À droite, N'Golo Kanté. À gauche, N'Golo Kanté. Derrière, N'Golo Kanté. Devant, Kylian Mbappé. À droite, N'Golo Kanté. À gauche, N'Golo Kanté.
Dans les autres matchs, l'Allemagne et la Hongrie ont fait match nul, 2 buts partout pour le groupe F. L'Espagne a écrasé la Slovaquie 5-0. La Suède s'est imposée contre la Pologne 3-2. Mardi, dans le groupe D, il y avait 2 matchs. La Croatie s'est imposée contre l'Écosse 3-1. L'Angleterre a battu la République tchèque 1-0. Et maintenant, on écoute Annie Gasnier et Nabil Djellit de Radio Foot International qui reviennent sur les faits marquants de ce premier tour de l'Euro.
Qu'est-ce que vous diriez, vous, Nabil, qui vous a marqué, qui vous a choqué, qui vous a enthousiasmé?
Bon, je pense qu'il y en a un qui est quand même incontournable. Malheureusement, c'est quand même ce qui est arrivé au joueur du Danemark, Eriksen.
Oui, mais ça se finit bien, donc...
Il y a un véritable, effectivement, soulagement.
Soulagement d'autant que le Danemark, retrouve à jouer ses 8e de finale.
C'est la première fois dans l'histoire de
face
l'Euro
au Pays de Galles,
que
le premier...
une équipe qui perd ses deux matchs sur trois arrive à se qualifier pour les 8e de finale.
Tout à fait.
Et ça, c'est vrai que c'est un magnifique compte pour les Danois au pays d'Andersen et de la petite
Exactement.
Sirène.
Alors moi, je vais rester sur le terrain. Je vais pas aller chercher des choses extra-sportives.
Allez, sur le terrain.
L'extérieur du pied hier de Modric, voilà, tout simplement d'une pureté
incroyable.
Troisième
but des Croates.
Voilà, ce but-là, c'est celui qui m'a le plus ravi. Alors, il y a eu des beaux buts, celui de Chic, notamment joueur de la République tchèque avec cette frappe
du milieu
de terrain. Mais voilà, Modric, les grands champions.
Et vous, Xavier Barré?
Moi, je trouve surtout que finalement, à l'arrivée, on retrouve les 16 qualifiés pour ces 8e de finale sont toutes les meilleures équipes. En fait, il y a pas d'intrus, il y a pas de vol, il y a pas de scandale. Les Polonais ont été très décevants, ils y sont pas. Les Turcs ont été archi décevants, ils y sont pas. Les Finlandais étaient déjà heureux d'être là. Bon, il s'en est pas fallu de beaucoup, mais ils sont pas passés en 8e de finale.
L'Écosse aurait mérité peut-être meilleur sort.
L'Écosse, oui, mais ils sont en dessous de la Croatie,
bien sûr.
De la République tchèque et en dessous de l'Angleterre. Donc quelque part, on a vraiment l'élite du football européen au rendez-vous de ces 8e de finale. On a les 16 meilleurs du continent. Alors bien sûr, on peut dire que ça servait à rien de faire un premier tour comme certains grincheux pour éliminer 8 équipes. Non, moi je trouve que la fête a été belle, que la Macédoine avait droit de participer, ils se sont bien battus, que les Finlandais sont venus aussi, que des pays qu'on avait moins l'habitude de voir, les Slovaques aussi, même s'ils ont explosé aujourd'hui contre les Espagnols, ils sont voilà. Ouais. Donc cet Euro finalement, moi il me donne vraiment beaucoup de satisfaction pour le moment.
Eh bien la fête de l'Euro continue, elle continue sur les terrains d'Europe.
Un mot de basket, l'Euro féminin, la France a battu la Bosnie hier en quart de finale, 80-67. Les JO de Tokyo débuteront le 23 juillet prochain. Je vous propose un extrait de ce focus à un mois de l'ouverture des Jeux avec Nathalie Amar et Claire Broadhurst de Radio France Internationale.
La tenue de ces JO ne fait toujours pas l'unanimité. Oui, on sait que les sondages montrent que les Japonais n'y sont pas favorables. La crainte d'une résurgence de l'épidémie est dans tous les esprits, d'autant que seuls 7% des Japonais ont reçu 2 doses du vaccin à ce jour et que des athlètes avec leurs coachs et les médias vont arriver des 4 coins du monde sous peu. Pour Michael Head, chercheur en santé globale à l'université de Southampton en Grande-Bretagne, les Jeux auraient dû être repoussés d'une année supplémentaire.
Il sera extrêmement difficile de maîtriser les infections tout au long des Jeux, de garder le nombre de cas de Covid le plus bas possible et que les gens ne ramènent pas le virus dans leur pays. Nous savons qu'il y a des variants inquiétants qui circulent et si l'on met ensemble des gens qui viennent de pays différents, ça ne peut qu'accroître les risques de nouveaux variants et ça pourrait avoir un impact sur la vaccination globale. Même si j'aime le sport, si j'adore les Jeux olympiques, d'un point de vue de santé publique, leur tenue n'est vraiment pas une bonne idée.
Donc ça, Cléa, c'est l'avis des plus pessimistes, on l'a compris, mais si les Jeux sont maintenus, c'est aussi parce que les autorités japonaises ont jugé qu'il y avait moins de risques qu'auparavant.
Alors oui, il faut remettre les choses dans leur contexte. Si par exemple les Américains et les Européens ont opté pour une stratégie sur le long terme avec une vaccination massive, Tokyo a voulu maîtriser la propagation au fur et à mesure. C'est pourquoi, pour comprendre la décision des autorités nippones, il faut regarder les chiffres par tête, explique le biologiste Spencer Fox, directeur adjoint du consortium Covid-19 à l'université du Texas d'Austin.
Il est important de noter que même si le Japon vient de faire face à une nouvelle vague de cas de Covid, si l'on compare les chiffres avec ceux des États-Unis, lors de cette dernière vague, même à son pic, le ratio par habitant était toujours plus bas que lors du pire moment de la pandémie aux États-Unis. Donc avec les chiffres actuels et au regard du déclin de la vague, si 10 000 Japonais, ce qui sera la jauge autorisée dans les stades, se rendaient à un événement, selon nos estimations, une personne au maximum se trouvant dans la foule serait infectée. Les chiffres sont bas à ce point-là.
Et rappelons-le, seuls les Japonais pourront assister aux Jeux puisque les touristes étrangers ne pourront pas se rendre au Japon.
Voilà pour le journal des sports de ce jeudi. Vous écoutez Radio SBS, le programme en français.
C'est la mouise. Tu méprises, tu transformes, tu maquilles ton joli. C'est la crise. Tu sais tout, tu vois tout, mais jamais tu t'épuises. Je mets la gomme, je suis la toute dans ton jeu qui s'aiguise. Quand c'est la crise.
Et on vient d'écouter le dernier morceau d'Anissa Altmaier, un morceau qui s'intitule « C'est la crise ». Et s'il y a un pays justement qui ne connaît pas la crise, eh bien c'est l'Australie, puisque d'après une étude toute récente du Crédit Suisse, les Australiens font même partie des gens les plus riches du monde. On en parle tout de suite dans le journal de l'économie avec Jean-Noël Ducasse et Nicolas Perpich.
Comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour, Jean-Noël.
Il paraît que les Australiens sont parmi les plus riches du monde, selon une nouvelle étude par l'agence Crédit Suisse.
Oui, tout à fait. Donc voilà, c'était cette étude des pays autour du monde et qu'ils ont mis l'Australie numéro un sur la Global Wealth League. Et vraiment, c'est parce que il y a tellement de gens ici qui ont acheté leur propre maison. Et aussi parce que la valeur des maisons est montée tellement ici en Australie, plus de 400% depuis les dernières 25 années. Donc c'est énorme. Ça veut dire que en moyenne, chaque adulte australien vaut 238 000 dollars américains. Ça veut dire qu'ils sont plus riches que les résidents de chaque autre pays du monde. Et après les Australiens, il y a les Belges, les gens de Hong Kong et après ça, les Néo-Zélandais, juste à côté de chez nous. Et en fait, selon Crédit Suisse, 3 millions d'Australiens pourraient devenir des millionnaires et qui ne le sont pas maintenant. Donc ça, c'est assez étonnant. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Australiens de plus. Je ne sais pas si vraiment ça va se passer, mais c'est l'estimation de Crédit Suisse Australia. Et donc, ils pensent que voilà, en Australie, il y aura 70% de plus de millionnaires, parce que vraiment, il y a des choses comme, voilà, on a parlé déjà des domiciles, mais aussi parce que les taux d'intérêt ici sont tellement bas, ils disent que ça permet les gens à gagner plus d'argent, à accumuler plus de biens, etc. Donc, déjà, il y a 392 000 Australiens qui font partie des 1,8 millionnaires ici en Australie. Donc ça veut dire à peu près 1 sur 10 adultes, selon Crédit Suisse, sont des millionnaires. Donc, je ne sais pas très bien d'où ils sortent tout ça, parce que moi, je ne connais pas un seul millionnaire, donc peut-être que c'est des milieux spécialisés là. Mais en tous les cas, voilà ce que pense Crédit Suisse. Mais vraiment, le fait qu'on a des taux d'intérêt tellement bas ici, jusque 0,1% officiellement, et aussi qu'on est un des seuls pays qui a résisté tellement bien à cette pandémie, ça veut dire qu'on a une des économies les plus fortes au monde, ça c'est sûr. Donc on a beaucoup moins de chômage, on a été beaucoup moins atteint économiquement que des pays autour du monde, parce que c'est vrai que cette pandémie nous a pas touché comme beaucoup de pays autour du monde, même si en ce moment, malheureusement, il y a cette crise à Sydney.
Et puis, la Commonwealth Bank estime que les taux d'intérêt vont augmenter avant la fin de 2022.
Ben voilà, justement, on en parlait et ils sont pas les seuls. Il y a aussi deux autres banques qui pensent qu'en fait la Banque centrale va être obligée à commencer à bouger un peu plus tôt que c'était attendu. Mais là, la Commonwealth Bank pense que en fait en novembre 2022, la Banque centrale va lever le taux d'intérêt par 15 points. Ça veut dire que ça serait à 0,25%. Ils pensent qu'après ça, ils vont continuer à faire monter le taux d'intérêt en décembre 2022 et puis encore plus en 2023, plusieurs fois. Donc, on pourrait voir le taux d'intérêt qui remonte jusqu'à 1,25%. C'est un taux qu'on n'a pas vu depuis plusieurs années, mais aussi c'est un taux que la CBA, Commonwealth Bank of Australia, dit que c'est un taux d'intérêt neutre. C'est pas haut, c'est pas trop bas non plus. On va voir vraiment ce qui se passe, mais de toutes les façons, pour le moment, c'est vraiment pas très cher d'emprunter de l'argent. Mais si le taux d'intérêt monte à ce niveau-là, de 1,25% ou même 1,5%, ça veut dire que si on a une hypothèque de à peu près 500 000 $, ça veut dire qu'on va devoir payer 324 $ de plus chaque mois à la banque. Donc c'est quand même une différence assez importante. Mais bon, la Commonwealth Bank, c'est pas la seule des grandes banques ici à faire des prévisions que la Banque centrale va devoir bouger sur le taux d'intérêt assez rapidement. Il y a la ANZ qui pense qu'en fait ça va commencer en 2023, et puis Westpac aussi qui pense que ça va commencer en mars 2023. Donc c'est encore assez loin selon ces deux banques-là, mais bon, la Commonwealth Bank pense que ça va être un peu plus tôt, donc en novembre 2022. Mais bon, tout ça c'est de la spéculation, c'est des prévisions. Il faut aussi voir comment ça se passe avec le taux d'inflation ici en Australie, que ça soit bien dans cette cible d'entre 2 et 3% que la Banque centrale aimerait bien voir, et aussi que le taux de chômage reste bien bas. L'autre chose à voir, bien sûr, comme toujours, c'est de voir si les salaires vont commencer à monter, parce que ça fait tellement longtemps qu'ils bougent pas trop, les salaires ici en Australie, et donc ça veut dire que le taux d'inflation ne monte pas non plus et reste vraiment très très bas. Donc beaucoup de choses à voir encore.
Et du coup, il y aura moins de millionnaires en 2023 ?
Peut-être bien, on ne sait pas.
Merci Nicolas pour cette analyse de l'économie australienne. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup, à la semaine prochaine.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Bonjour à toutes et à tous, et nouvel épisode de notre série de podcasts sur l'histoire cachée de l'Australie. Dans le précédent épisode, nous avions raconté comment Napoléon Bonaparte avait tenté d'envahir l'Australie au tout début de la colonisation anglaise. Aujourd'hui, on va s'intéresser à celle qui fut son épouse, Joséphine, qui vouait une véritable passion pour la faune et la flore australienne. On va en parler avec Grégory Pless, et avant de commencer, je vous rappelle que vous pourrez retrouver cet épisode et l'ensemble de cette série sur notre site internet SBS French, mais aussi sur notre chaîne SBS Reportage, à laquelle vous pouvez vous abonner depuis votre application de streaming audio préférée. Alors Grégory, si j'ai tout bien compris, Joséphine de Beauharnais, elle avait un faible pour les kangourous et les koalas.
Alors oui, effectivement, mais il faut préciser qu'à cette époque, c'est-à-dire fin 18e, début 19e siècle, c'est une période en fait durant laquelle il y a énormément d'avancées scientifiques, on connaît de mieux en mieux le monde qui nous entoure, et donc en fait cette passion pour ce qu'on appelle à l'époque l'histoire naturelle, en fait Joséphine, elle est loin d'être la seule à la partager. C'est d'ailleurs une passion, je peux pas vous expliquer pourquoi, mais qui intéresse en particulier les femmes à cette époque. Alors ceci étant dit, Joséphine, elle a un avantage très certain sur les autres amateurs d'histoire naturelle, c'est que son mari, c'est un chef d'État, qui plus est un conquérant, et ça va permettre du coup à Joséphine de créer en quelques années seulement, et en lisière de Paris, en banlieue parisienne, l'un des plus beaux jardins botaniques d'Europe, mais aussi d'une certaine manière la première réserve animale du continent européen. Et je vous parle de ça, c'est plus d'un siècle avant l'ouverture du premier zoo en Europe. Pour information, le premier zoo en Europe, il ouvre en 1907 à Hambourg.
Alors cette réserve animale en banlieue parisienne, où est-ce qu'elle se trouvait exactement ?
Alors, elle se trouve dans l'actuel département des Hauts-de-Seine, le 92, et plus précisément dans la ville de Rueil-Malmaison, qui se trouve donc à une dizaine de kilomètres de Paris. On peut y aller avec le RER A, par exemple, aujourd'hui. Et en fait, la propriété sur laquelle s'installe Joséphine, c'est un petit château qui s'appelle donc la Malmaison, et qui se trouve sur un terrain de 60 hectares, et dont Joséphine fait l'acquisition en 1799. Alors ce château, il faut savoir qu'il a été saisi 10 ans plus tôt par les révolutionnaires. Ils ont expulsé ses propriétaires et ensuite ils l'ont un petit peu laissé à l'abandon. Donc quand Joséphine l'achète, ce château, il est un peu complètement décrépit, et pourtant elle en tombe immédiatement amoureuse. Et c'est sans doute car dès cette époque, elle imagine déjà ce qu'elle compte en faire. Comme je vous le disais, la plus belle collection de plantes et d'animaux exotiques de France et sans doute d'Europe. Alors pour y arriver, elle utilise sans vergogne son statut de première dame. Elle va taper à la porte de tous les ambassadeurs, des explorateurs de l'époque, pour leur demander de lui ramener des spécimens de plantes et d'animaux venus des quatre coins du monde. Et puis à la Malmaison, elle va aussi s'entourer des meilleurs botanistes, des meilleurs jardiniers de l'époque, parce que faire pousser des plantes tropicales en banlieue parisienne, c'est peu dire qu'il faut avoir sacrément la main verte. Et parmi eux, parmi ces jardiniers, le chef jardinier, justement, c'est un certain Félix Delahaye. Et lui, comme Joséphine, il est absolument passionné par l'Australie. En plus, il a eu l'occasion de s'y rendre, puisque quelques années plus tôt, il a participé à cette expédition qui était destinée à retrouver la Pérouse.
Et c'est donc l'année suivante l'acquisition de ce château que Nicolas Baudin, lui part en expédition pour l'Australie.
Oui, alors cette expédition, effectivement, on en avait déjà parlé dans le dernier épisode, elle a un but caché, stratégique, qui est de récolter des renseignements sur la colonie anglaise pour une éventuelle invasion. mais c'est d'abord et avant tout une expédition à caractère scientifique. Et il est prévu, dès son départ depuis le port du Havre, de ramener depuis l'Australie le plus grand nombre possible de plantes et d'animaux. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les deux navires qui partent pour l'autre bout du monde s'appellent le géographe et le naturaliste. Et le moins qu'on puisse dire, eh bien, c'est que cette expédition, sur ce plan-là, sur ce plan scientifique, c'est un immense succès, puisque au retour, eh bien, les zoologues, les botanistes, les astronomes qui se trouvaient à bord, eh bien, ils ont découvert plus de 600 nouvelles espèces de plantes qui étaient jusqu'à présent complètement inconnues, plus de 2500 nouveaux animaux, et ils en ont donc ramené aussi de nombreux spécimens dans les cales de leur bateau. D'ailleurs, Jussieu, qui est alors à l'époque le directeur du Muséum National d'Histoire Naturelle, dira de cette expédition qu'elle est un immense succès, que les spécimens rapportés en France représentent de loin la plus grande collection jamais assemblée.
Et pourtant, le Muséum d'Histoire Naturelle, eh bien, ces spécimens, il va en récupérer assez peu finalement.
Alors effectivement, puisque Joséphine prend sa part, et elle n'est pas petite cette part, puisque par exemple sur les environ 70 animaux vivants qui sont, en tout cas qui arrivent vivants jusqu'en France, eh bien les deux tiers vont aller directement à la malmaison chez Joséphine, qui en gros va laisser au muséum tous les animaux un peu dangereux, voilà, parce qu'il y a aussi des animaux qui sont récupérés sur la route depuis d'autres continents, des lions, des tigres, etc. Bon, ça, dans son jardin, c'est pas top. Alors du coup, ces animaux un peu dangereux, elle les envoie au muséum, et elle garde les animaux qui sont inoffensifs. Et donc typiquement, bah, depuis l'Australie, des kangourous, des wallabies, tout un tas d'espèces d'oiseaux. Et là-dessus, si vous me permettez, je vais juste donner quelques détails. Il y a notamment le cas des cygnes noirs. Les cygnes noirs, en fait, c'est une espèce endémique d'Australie occidentale. On n'en a jamais vu avant cette expédition en Europe. Et Joséphine, ben, il y a quelque chose qu'elle doit faire sûrement bien, puisque aujourd'hui, à l'heure actuelle, des cygnes noirs, il y en a partout dans toute l'Europe. Et les premiers, ben, en fait, ils sont nés dans le jardin de Joséphine, à la Malmaison. Et un autre détail là-dessus, l'une des espèces qui a été ramenée jusqu'à la Malmaison, c'est ce qu'on appelle l'émeu nain, le dwarf emu. Ça, c'est une espèce qui est vraiment typique de Kangaroo Island. En fait, ce qui est dramatique, c'est que quelques années seulement après que l'île ait été découverte par les explorateurs européens, eh bien, ces émeunins, ils vont être complètement éradiqués, parce que les explorateurs européens, justement, les chassent pour les manger. Et très vite, il n'y en a plus un seul. Et le paradoxe dans cette histoire, eh bien, c'est que les derniers spécimens vivants de cette espèce, eh bien, en fait, ils vivent à la Malmaison, en banlieue parisienne, sous la houlette de Joséphine. Voilà, donc pour terminer là-dessus, Joséphine, en quelques années seulement, elle a créé une véritable arche de Noé à la Malmaison, un lieu qui va même jusqu'à impressionner celui qui est considéré alors comme le plus grand zoologue de son époque, c'est l'Allemand Alexandre de Humboldt, qui va avoir l'occasion de visiter ce jardin de la Malmaison et qui en dira, eh bien, que c'est le véritable jardin des plantes, plus que bah, celui qui se trouve dans le 13e arrondissement de Paris.
Alors des plantes, justement, Joséphine, eh bien, on a fait pousser énormément à la Malmaison.
Oui. Alors pour le coup, pas que des variétés de plantes australiennes. Par exemple, elle fait pousser plus de 250 variétés de roses différentes. Il y en a certaines qui portent même son nom, la Joséphinus imperatricis. Mais on retrouve aussi, bien sûr, beaucoup d'espèces de plantes australiennes, des eucalyptus, des gommiers, les fameuses banksia, ou encore du mimosa doré. Le mimosa doré, qui, au cas où vous ne le savez pas, est désormais l'emblème floral de l'Australie.
Alors ce mimosa, on le connaît bien, hein, quand on va dans le sud de la France, mais cette fleur, donc le mimosa doré, eh bien, elle a une importance particulière pour Joséphine.
Oui, alors c'est effectivement sa fleur préférée. Elle a peut-être 250 sortes de roses différentes, mais sa fleur préférée, c'est le mimosa doré, une fleur donc endémique de l'Australie. Et le détail amusant sur le mimosa doré, c'est que c'est donc une fleur qui pousse en Australie originellement, mais qu'on retrouve aussi à des milliers de kilomètres de là, sur une petite île en plein milieu de l'océan Atlantique qui s'appelle Sainte-Hélène. Alors Sainte-Hélène, vous savez, bien sûr, c'est l'île où Napoléon a fini ses jours, exilé sous la garde des Anglais après les multiples guerres qui ont été menées en Europe. C'est là qu'on a voulu définitivement le neutraliser. Et comment le mimosa doré s'est retrouvé
sur cette petite île au milieu de nulle part, et bien justement grâce ou à cause de Napoléon qui, sous la forme d'une faveur qu'il a demandé à ses geôliers anglais, il a demandé à ce qu'ils puissent faire pousser et planter du mimosa doré, parce que c'était donc la fleur préférée de son ancienne épouse Joséphine, et que c'était une manière pour lui, même en détention, et bien de garder le souvenir de celle qu'il avait tant aimée.
Et voilà, bah comme quoi on peut bien mettre un continent à feu et à sang et garder un cœur tendre. Merci Grégory pour ces explications, et c'est la fin de cet épisode. Restez branchés sur notre chaîne SBS Reportage. Nous reviendrons bientôt avec un nouvel épisode sur l'histoire cachée de l'Australie.
Dans un monde meilleur, on serait des saints. Sur le droit chemin dans le mauvais sens, remonter, redescendre, remonter, redescendre. Sur le droit chemin dans le mauvais sens, remonter, redescendre.
Et le morceau qu'on vient d'écouter, il s'appelle « Mauvais sens ». Il est interprété par Moussa et Yanis Stein. Allez, maintenant, on va retrouver Christophe Mallet. Il a rencontré Noémie. Elle est infirmière et surtout experte du sommeil. Elle va nous donner quelques conseils pour vous aider à mieux faire dormir votre bébé.
Vous écoutez le français sur Radio SPS.
Alors aujourd'hui, eh bien, on va parler de sommeil chez les tout-petits, puisque c'est c'est un élément primordial, c'est clé dans l'adaptation d'un petit bébé avec sa famille, avec Noémie. Bonjour Noémie.
Bonjour Christophe.
Alors c'est votre activité. Vous êtes une infirmière de formation. On va en parler. Mais vous êtes surtout appliquée par rapport au sommeil des tout-petits. Et on sait que le sommeil des tout-petits, ça peut être vraiment la clé de l'harmonie dans une famille ou pas. Hein.
Exactement, c'est tellement important et c'est comme ça que je suis arrivée à devenir sleep consultant. C'est parce que mon deuxième enfant ne dormait pas et à ce moment-là, j'étais en pleine recherche de reconversion professionnelle et j'ai fait appel à une sleep consultant qui m'a vraiment aidée, qui a changé notre dynamique familiale parce que mon fils s'est mis à dormir pour plus longtemps la nuit, donc vraiment super. Et c'était assez une évidence de partir là-dessus, de se former à devenir sleep consultant. Étant infirmière et ayant travaillé plusieurs années au bloc pédiatrique et gynécologique, c'était vraiment une évidence pour moi. J'avais enfin trouvé ma reconversion. Et depuis, je suis ravie d'avoir fait ce projet et de monter mon business et d'aider des familles à avoir plus de sommeil.
Et on sait que c'est clé, hein. Et donc, bon, vous attelez pas forcément qu'aux Français, on va bien dire ça dès le départ, c'est vraiment pour tout le monde. Mais parlez-nous un petit peu des moments clés, en fait, des choses clés qui sont peut-être une évidence pour certains parents et peut-être pas du tout une autre évidence pour d'autres parents. Peut-être des erreurs à pas forcément faire dans l'approche du sommeil par rapport à un bébé ou à un toddler. Hein. On parle des bébés et des toddlers aussi.
Exactement. Donc moi, je commence à travailler avec des enfants qui ont à peu près 3 semaines jusqu'à 5 ans. Donc on travaille vraiment par tranche d'âge. Et pour toutes les tranches d'âge, ce qui est vraiment très important, c'est l'environnement de sommeil. Donc la chambre, que ce soit la chambre des parents quand le bébé est tout petit qui dort avec les parents, ou la chambre de l'enfant plus tard, c'est vraiment, il faut que l'environnement soit calme, noir le plus possible. Sans distraction, parce qu'un enfant qui se réveille en plein milieu de la nuit et s'il voit quelque chose qui attire l'œil, il aura beaucoup plus de mal à s'endormir. Donc en fait, mon approche est vraiment globale parce que je prends en considération l'environnement de sommeil, la nutrition aussi qui est très très important. On le sait tous, même nous adultes, quand on a faim la nuit, ça nous empêche de dormir. Donc les enfants, c'est pareil. Je prends aussi en compte la famille, leurs habitudes de vie, leur style de vie, le style parental aussi, ce qu'ils préfèrent, comment ils éduquent leurs enfants. Et bien sûr, le sommeil, les différentes techniques, si jamais l'enfant se réveille en plein milieu de la nuit et qu'on sait qu'il n'a pas faim, qu'est-ce qu'on fait, comment on réagit, ou si l'enfant fait des siestes assez courtes toute la journée, qu'est-ce qu'on fait pour allonger ses siestes et avoir des siestes bien marquées tout au long de la journée pour après améliorer la nuit.
Alors, chez les enfants, on le sait que la routine, c'est vraiment d'or. Et ça, c'est vraiment une des clés, je pense, par rapport au sommeil. C'est d'avoir, c'est ce que vous faites, vous aidez les familles à instaurer certaines routines qui font que, en fin de journée, l'enfant tombe de sommeil.
Exactement. C'est une routine saine qui s'adapte vraiment, encore une fois, au style de vie des parents, parce qu'un parent qui va chercher son enfant à 5h30 à la crèche ou un parent qui va à 4h, on n'a pas exactement tous la même routine. Donc, c'est vraiment prendre ça en considération et avoir un nombre de siestes maximum, parce que selon les heures, selon les âges, les enfants ont besoin de dormir plus la journée ou moins la journée. Donc, c'est vraiment travailler sur la durée des siestes, les heures, parce que par rapport aux hormones, on a des périodes, donc les enfants et les adultes, on a des périodes où on s'endort plus facilement parce qu'il y a une hormone qui se met en route et on vise vraiment la sieste au moment où l'hormone commence à se produire.
Alors, il y a aussi la question de quand arrêter la sieste aussi, parce que il y a la phase où c'est super agréable que l'enfant dorme l'après-midi parce que ça fait une petite pause. Mais la réalité est que des fois, il y a un moment, la sieste, elle est primordiale, et puis il y a un moment, ça bascule. Et la sieste, elle devient plus dangereuse par rapport au sommeil du soir. Donc, vous aidez aussi les familles à comprendre ça.
Exactement, exactement. Et le soir, on a ce qu'on appelle des fenêtres de sommeil où justement cette hormone qui s'appelle la mélatonine se déclenche et qui a lieu vers 7 heures du soir. Donc on essaie vraiment de viser un coucher vers 7 heures, mais encore une fois, je m'adapte aux besoins de la famille et on joue sur la durée des siestes effectivement, parce que bon, un enfant qui dort toute l'après-midi forcément est moins fatigué la nuit. La nuit, il est couché plus tard, donc il dort moins la nuit, donc ça, ouais, effectivement, ça peut vite devenir compliqué.
C'est un cercle vicieux qui peut être.
Exactement. Très
si on parle justement des cultures, différentes cultures, vous êtes française, donc vous venez d'une culture française et francophone, mais aujourd'hui en Australie, il y a une culture qui est un petit peu différente par rapport au sommeil. Est-ce que vous voyez des différences entre, quand vous dites vous adapter aux familles, il faut sûrement vous adapter au style de vie des familles australiennes et françaises, et c'est pas forcément pareil. On sait qu'en France, il y a des enfants qui vont pas se coucher avant 9h, 9h30, 10h. Donc est-ce que vous voyez des différences au jour le jour?
Oui, exactement, parce que je travaille aussi avec des familles françaises qui habitent en Australie, des familles françaises qui vivent en France. Donc vraiment, je m'adapte, mais effectivement, ce qui revient souvent, c'est que bah oui, en France, on est habitué à manger un peu plus tard qu'en Australie, donc on met ses enfants plus tard, et des fois, ça peut poser problème. Le but, c'est vraiment d'avoir une nuit complète de sommeil et de coucher l'enfant le plus tôt possible. Et ce qui est bien aussi pour les parents, parce qu'après les parents ont leur soirée pour eux, plutôt que de passer du temps à essayer d'endormir l'enfant et que ça prenne jusqu'à 21h, 21h30, parce que l'enfant est ce qu'on appelle trop fatigué pour se mettre en sommeil profond, et donc ça crée des réveils plus fréquents en début de nuit.
Le lockdown, là, le confinement à Melbourne, en Australie, le coronavirus, tout ça, ça n'a pas dû aider. Tout ça, vous avez dû revoir. Est-ce que vous avez dû revoir un peu la copie pour certaines familles, parce que la dynamique dans la journée n'était plus la même. Donc, du coup, la dynamique de sommeil doit être forcément différente.
Oui, alors, ce qui est le point positif par rapport à ça, c'est que justement, la routine se met en place plus facilement parce qu'il y a moins de choses à faire la journée, comme on doit rester chez nous et sortir très peu. L'avantage, c'est qu'au niveau des parents avec qui j'ai travaillé pendant le lockdown, ils m'ont tout dit, la routine est facile à suivre parce qu'on n'a pas de, on ne doit pas se déplacer pour aller à un rendez-vous et tout ça. Donc, ils ont vraiment su respecter les fenêtres de sommeil, et c'est super. Après, ça n'empêche pas que même sans Covid, il faut vivre sa vie et avoir la routine, parce qu'on peut pas non plus s'arrêter tout le temps à tout ça. Mais oui, le Covid a eu forcément un impact, et l'impact, le ressenti que j'ai moi par rapport au retour des familles, c'est qu'ils arrivent vraiment à respecter les heures de sommeil et de permettre à l'enfant de faire ses siestes chez lui dans sa chambre, ce qui est forcément plus récupérateur.
Mais vous n'êtes pas comme Super Nanny quand même, qui vient et qui râle et qui gueule
Non. Non, mon but, c'est vraiment d'apporter un soutien aux familles, un soutien moral, et de les guider dans la mise en place d'une routine qui leur convient et améliorer le sommeil de leurs enfants. et je suis vraiment à l'écoute et je comprends parce que moi-même j'ai deux enfants et je sais que ben, on ne fait pas toujours ce qu'on veut avec nos enfants.
Et c'est pas forcément la baguette magique. C'est pas forcément...
Voilà, tout à fait. Donc je m'adapte vraiment et en fait dans les différentes options que je propose, il y a un suivi de 2 semaines où on se contacte, donc la famille et moi, on se contacte toutes les 48 heures et justement on revoit la routine, on revoit ce qui s'est passé, ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné. Donc c'est vraiment une approche globale et qui s'adapte aux besoins de chacun.
Alors, il y a plein d'infos sur votre site web. On ne va pas dévoiler tous vos secrets non plus, parce que c'est pas non plus. Mais vous nous devez rappeler l'adresse internet ?
Alors, c'est Sweet Dreams, petit bébé.
Sweet Dreams avec un S, bien sûr.
Avec un S, oui.
Merci, Noémie.
Merci beaucoup.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
La merde quand t'es pas là, c'est pas sans sans tes bas, j'passe tant que t'es là, j'passe tant que ça, j'ai la merde, tu comprends pas. Je veux pas de toi, non, je veux pas de toi. Mais c'est pas personnel, les autres sont plus belles. J'suis sous Jack Sommier, quand tu seras belle. Mais c'est pas personnel, les autres sont plus belles. J'suis sous Jack Sommier, quand tu seras belle. C'est pas personnel.
Merde. SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte avec ce morceau de Monsieur Giscard qui s'appelle Pas personnel. Notre prochain rendez-vous en direct, ce sera samedi à 13h précise. D'ici là, vous pouvez continuer bien sûr à nous écouter en podcast. Pour cela, abonnez-vous à notre chaîne SBS French. Vous la trouverez sur toutes les bonnes plateformes de streaming audio. Passez une excellente après-midi et à très bientôt.
Quand tu seras belle, mais c'est pas personnel. Les autres sont plus belles. J'suis sous Jack Sommier. Quand tu seras belle, mais c'est pas personnel. Pas personnel. Personnel. Pas personnel. Mais c'est pas personnel.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.